Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure du MAG de l'IMO avec notre invité, notre grand témoin de ce vendredi 1er avril. C'est Stéphane Revault qui, on l'a compris, donc a des enfants petits en bas âge. Du coup, ça ne dérange pas de se lever trop tôt, ni de braver le froid pour venir nous voir. C'est le patron fondateur de Dealand qu'on va retrouver auprès tout au long de cette première heure. Voilà, on a démarré très fort avec ce titre, hein, des Beatles, Helter Skelter. Et vous complétez, Stéphane, hein, c'était pour faire le plus de bruit possible à l'époque ?
Pour faire concurrence au Who, oui. Il y avait une concurrence à l'époque et c'était faire la chanson la plus bruyante du rock'n'roll en 67, il me semble.
Et c'est réussi. Bon, on écoutera d'autres titres également. On fait tout de suite votre découverte, votre portrait. C'est avec Fabienne. Fabienne Nissek.
Oui, vous aussi, Stéphane Novo, vous faites du bruit parce que des entrepreneurs, il y en a pas mal, mais de plus en plus, tant mieux pour la start-up Nation, notamment voulu par le président actuel, et puis tant mieux pour l'emploi, hein, on crée son propre emploi. Et également, ce qui est intéressant, c'est que vous, votre sujet, ce sont les gens âgés. Alors, on dit hein, dans le vocabulaire châtier les seniors. Comment on vient à s'intéresser à cette population-là, certes importante, cette croissante? Est-ce que c'est tout simplement parce que on a bien aimé son grand-père, sa grand-mère?
Alors il y a de ça et par ailleurs en fait moi j'ai des grands-parents des deux côtés qui étaient en plus entrepreneurs, donc ça me porte pas mal et aussi parce que finalement ça fait partie des grands challenges de sociétaux sur les années à venir que j'ai bossé dans le business du vieux pour arrêter d'en parler avec des mots trop châtiés pendant 7 ans auparavant chez Korian à développer des offres pour les EHPAD, puis à développer le domicile parce que je pense que la volonté de tout le monde, et de toute façon toutes les statistiques vous le disent, c'est de rejeter ses choix. Mais vous, si je vous posais la question, comment vous vous imaginez à 85-90 ans, c'est chez moi.
Non, pardon, excuse-moi, c'est pas la bonne réponse.
je veux être chez moi et je veux avoir les moyens de l'être. Et aujourd'hui, le plus gros nœud, il nous semble, c'est le fait d'avoir les moyens de pouvoir rester chez soi, de pouvoir faire des projets, parce que c'est pas parce qu'on a 75 ou 80 ans que on doit juste attendre la fin. Hein, on a plein de projets et du coup, en revanche, on se retrouve avec des retraites qui sont faibles et puis qui commencent à baisser. Actuellement, en plus, on a le retour de l'inflation qui commence à faire peur aussi aux retraités. Et alors qu'on est assis sur un patrimoine important qu'on a construit toute sa vie, qui est la résidence principale. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on cherche à proposer, c'est comment accéder à cette richesse qui est la mienne pour avoir les moyens de rester chez moi, mener à bien mes projets.
Je reviens sur une chose importante que vous avez dite. On a tendance à faire du jeunisme sans s'en rendre compte. Voilà, c'est bien, il y a des entrepreneurs, ils ont des projets. Et vous dites, mais non, enfin, j'ai cru comprendre, à 70 ans, 75 ans, on a encore des projets. C'est ce que vous avez constaté. Et est-ce qu'il y a un a priori comme ça qui est faux de se dire que, on va pas cibler cette population, cette catégorie, parce qu'ils ont plus de projets?
Ouais, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. À moins que vous soyez très riche, aujourd'hui, une banque, vous avez 70 ans ou plus, elle n'a rien à vous proposer. Elle ne vous propose pas de placement, elle ne vous propose pas de prêt. Donc, vous avez besoin de faire des travaux. Vous avez un petit studio qui vous fait la poire pour la soif en location. Vous avez besoin de faire des travaux parce que c'est une passoire thermique. Donc, vous vous dites, oula, 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 il faut que je fasse l'isolation, etc. etc. Et vous avez aucune solution.
Et donc là, vous dites, il faut que ces gens-là, en vérité, ils ont un revenu, un pouvoir d'achat de l'énergie, et donc il faut leur donner les moyens
et des envies. Moi, j'ai une voisine, elle a 75 ans, elle s'est acheté un mobil-home en Normandie pour se rapprocher de sa famille. Typiquement, c'est des projets comme ça, c'est des projets positifs. Il y a le sujet du maintien à domicile, qui est un sujet hyper important, et sur lequel, en France, on est pas très en avance en termes d'équipement, d'aide technique. Donc quand je parle d'aide technique, hein, c'est tout ce qui va être les poignées pour pouvoir se relever correctement et pas tomber quand on va aux toilettes ou quand on est dans sa douche. Ça va être tout ce qui est téléassistance. On est 4 fois moins équipé que les pays du nord de l'Europe.
Alors on va parler marché, mais je reviens sur les petites pierres que vous avez lâchées. Vos grands-parents, ils étaient entrepreneurs. Voilà. Au lieu de vous amener au parc, ils vous montraient, tiens, voilà comment tu crées ton entreprise. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ça se passait?
En fait, c'est vrai que c'est assez marrant. D'un côté, moi, j'avais un grand-père qui avait monté une entreprise d'horticulture au Maroc. Et de l'autre, un autre qui a monté une entreprise dans le négoce. Des épices et des fournitures de matériel culinaire, dont il m'est notamment resté un amour de la cuisine, et entreprise qui fête ses 100 ans aujourd'hui.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle La Bovida.
C'est pas très loin de notre studio, en tout cas, c'est ça?
Exactement, il y a la boutique historique près des Halles. Maintenant, ils sont répartis sur toute la France, bien entendu.
On peut acheter des belles poêles, effectivement,
des magnifiques cocottes Le Creuset pour faire des bons petits plats.
Bon, on aura une recette en fin d'émission par Stéphane. Tout de suite, on décrit quand même votre activité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment, comme vous dites, qui aident les seniors notamment à acheter chez eux avec des solutions, par exemple, de vente en nue propriété. C'est pas du tout ce que vous proposez. Alors, ça peut faire partie de la...
Nous, on a pour but d'aller au-delà de ce qui peut exister. Hein, le totem qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est le viager.
Oui.
Ça existe depuis longtemps, ça existe depuis 976. Donc ça va, c'est une solution qui est plutôt éprouvée par le temps.
Voilà, où on vend en fait...
où on vend la totalité de son bien.
Sont bien, voilà.
Contre généralement un bouquet, c'est-à-dire une somme fixe, puis une rente. Nous, on a décidé d'avoir un panel de solutions plus large. On propose de racheter les biens des personnes sur un modèle de type viager sans rente, qui est en fait là, on verse la totalité en bouquet du bien. Donc vous avez une décote qui est liée à votre âge.
On prend un exemple, Stéphane, si par exemple, on va prendre un beau bien parisien, en plus on connaît les prix maintenant, voilà, ça vaut 1 million d'euros, vous allez l'acheter quoi, 600 000
ça va, par exemple, ça dépend de l'État. Ça va dépendre de l'âge de la personne. C'est notre critère principal. On fait valoriser le bien, on le fait expertiser, et puis sur la base de cette valeur vénale du bien, on achète avec cette décote. Ça, c'est notre première offre. Mais on a décidé d'aller au-delà parce que ça correspond à un certain nombre de besoins, mais pas aux besoins de tout le monde. Vous avez des personnes qui ont envie, qui se projettent dans une mobilité à moyen terme, qui vont vouloir soit se rapprocher de leur famille, ou qui ont une maison avec des étages et qui se disent « J'ai 85 ans, j'arrive encore à monter à l'étage, mais en fait, ça va pas non plus durer, il faudrait que j'anticipe d'acheter un bien plus accessible. Et vous pouvez, mais j'ai pas envie de déménager tout de suite. » Eh bien, on a créé Reverso Max, qui est une solution de cession-location, où on va racheter le bien avec une légère décote d'occupation. Donc, on va l'acheter à 80% de sa valeur libre. Et on va mettre en place un bail de la durée souhaitée par le senior. Et la personne va pouvoir, du coup, finalement, récupérer un maximum de patrimoine pour, pourquoi pas, anticiper sa succession, faire des donations du vivant. Aujourd'hui, il n'y a que 10% des contribuables qui le font. Eh bien, demain, grâce à nous, on espère en tout cas que beaucoup plus de monde va pouvoir avoir recours à cela. Et puis, payer l'usage résiduel de son bien. Si finalement, il part plus tôt, il nous donne congé, il a un préavis d'un mois, c'est très facile. Et s'il veut rester plus longtemps, eh bien, il reste plus longtemps, le bail est reconductible.
Un sujet qui intéresse beaucoup de monde, et alors qu'on est à quelques jours de l'élection présidentielle, souvent il y a des candidats qui ont cherché à faciliter la transmission de patrimoine à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Hein. Parfois, c'était des credos. Nicolas Sarkozy s'était soucié des droits de mutation. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer, ou peut-être, voilà, c'est des acteurs privés qui offrent des solutions pour que, ou alors que c'est normal qu'on crée un patrimoine et puis on le garde pour soi, on peut pas le céder à ses enfants. Comment ça se passe?
Je pense que c'est une préoccupation pour beaucoup de gens, à la fois pour transmettre à sa famille, parce qu'aujourd'hui l'âge moyen d'héritage c'est 59 ans. Donc quand vous avez 59 ans, en général, vous avez déjà pas mal fait votre vie. Et donc, ça arrive plus
au
bon moment. Ça arrive pas au moment où vous lancez votre entreprise. Ça arrive pas au moment où vous sortez de vos études et vous lancez dans la vie. Et c'est l'envie de plein de gens d'aider leurs petits-enfants. Et comme leur patrimoine, c'est la résidence principale, ils en ont pas les moyens, en fait. Vous pouvez faire toute la gesticulation fiscale que vous voulez. C'est pas une question de fiscalité, puisque la fiscalité aujourd'hui, elle est assez propice à ça. C'est une question de moyens et de liquidité. Mais ça concerne aussi les personnes qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai une de mes clientes, elle a 88 ans, elle a pas d'héritier, et c'est son droit, ça l'embêtait de tout laisser au fisc. Et donc, son envie et son projet, c'était de revendre sa maison pour faire une grande donation à une association d'aide aux animaux.
Parce qu'elle aime les animaux.
Et elle voulait pas le faire à sa succession, elle voulait le faire de son vivant pour s'assurer que tout était bien employé comme elle le voulait. Et ben, on lui a permis de réaliser ça et on en est super.
Je crois que vous allez me dire qu'elle a tout légué à son chat ou à son chien.
Non.
Tiens, on reste dans la fiscalité. Est-ce qu'on est taxé justement quand on vend avec votre offre Reverso sa résidence principale?
Alors quand il s'agit de votre résidence principale, vous n'êtes pas taxé sur les plus-values. Hein, c'est le cas de revente. C'est exactement comme si vous le revendiez. De manière libre et que vous déménagiez. C'est également le cas pour notre dernière offre qui est Reverso Flex, qui est une offre aussi unique en France d'acquisition partielle, qui vous permet de libérer juste le montant dont vous avez besoin, parce que vous n'avez pas forcément envie dans la vie de vous retrouver avec plusieurs centaines de milliers d'euros sur le compte et à pas savoir qu'en faire, et que votre projet, en fait, c'est peut-être juste de rénover, je reprends le bel appartement parisien à 1 million, vous avez peut-être 100 000 euros de travaux à faire pour le rénover complètement et qu'il soit à votre goût et puis heureux dans le coup. Nous, on va pouvoir vous racheter une quote-part de votre appartement, vous restez propriétaire. Donc en plus, vous et vos enfants, vous bénéficiez de la croissance à long terme de l'immobilier vous bénéficiez quand même finalement de cette tirelire sur laquelle vous pouvez
D'accord,
tirer.
On se dit finalement, on monétise son bien immobilier qui devient, comme vous le dites, une espèce de super cagnotte et on peut du coup faire une vente partielle pour, par exemple, j'ai besoin de 100 000 euros pour faire les travaux de rénovation, on en parle beaucoup avec la RE2020, je peux le faire grâce à vous.
Exactement. D'accord. Et pour des propriétaires qui sont en locatif, c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est ils n'ont pas forcément les liquidités, ils mettent les biens en vente finalement. Et donc aujourd'hui, là, on le voit, il y a plein de passoires thermiques qui sont mises en vente ça se vend pas forcément dans les meilleures conditions, alors que les personnes pourraient les garder et faire comme ça une cession partielle pour conserver l'essentiel. Du revenu locatif et faire ses travaux sans aller puiser dans leur liquidité s'ils en ont ou tout simplement en ayant les moyens de le faire.
Alors c'est un sujet ultra intéressant, on essaye en parallèle d'un peu plus vous découvrir, vous n'êtes pas encore connu parce que relativement récent sur ce marché immobilier, on a compris que vous aimez bien la pop ou je devrais dire plutôt le rock avec le choix de musique, effectivement vous écoutez du rock tout le temps, comment ça se passe?
Oui, moi j'aime beaucoup la musique, c'est quelque chose qui m'aide à réfléchir, je suis très rock classique. Pour moi l'âge d'or des années 60-70 moi la musique c'est quelque chose qui m'habite pas mal. J'ai toujours quand je télétravaille ma guitare à portée de main pour juste avoir la petite session de réflexion et puis vider un peu la tête et se clarifier au grand désespoir de mes enfants qui trouvent pas forcément que je chante la sérénade la plus agréable du monde.
Alors pour mieux vous connaître, on a parlé à l'un de vos amis que Fabrice va nous présenter dans un instant parce que apparemment vous êtes quelqu'un de très attachant et on va essayer d'écouter ce témoignage peut-être Fabrice.
C'est l'ami avocat. Donc on va écouter Charles Rousselot qui parle de son compère, donc Stéphane Revaux, notre invité du jour.
Charles Rousselot, bonjour, vous êtes avocat, mais surtout vous êtes un ami de longue date de Stéphane Revaux. Ça date de quand vos relations amicales ?
Stéphane et moi, nous connaissons depuis plus de 20 ans. Maintenant, c'est un ami de 20 ans. On s'est rencontrés au lycée. On a très vite sympathisé. On a très vite enchaîné sur de belles soirées entre amis, des amis, des soirées à refaire le monde, des vacances, des courts-métrages, des mariages. On était témoins, lui de mon mariage, moi du sien. On a rencontré nos femmes au même moment quasiment et aujourd'hui on se suit avec nos enfants et on continue à refaire le monde.
Qu'est-ce que vous appréciez chez lui ?
Stéphane, c'est quelqu'un de fidèle. Fidèle en amitié, fidèle dans tout ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un de très sérieux, donc je le suis également, mais avec beaucoup d'humour. Et c'est vrai que c'est un ami incroyable. Et je sais qu'il est également pugnace. Stéphane veut avoir réponse à tout et s'accrochera jusqu'à avoir la réponse à la question qui lui est posée.
Quand vous le voyez chef d'entreprise, entrepreneur, c'est quelque chose que vous pouviez déjà percevoir quand il était plus jeune ?
Stéphane, oui, c'est un homme qui, depuis que je le connais, s'intéresse à la vie économique, à la vie politique, à la vie nationale, et je l'imagine très bien. Et pour moi, c'est, je dirais, la suite logique de son parcours de consultant, de s'installer et de créer cette activité d'Ilan à laquelle je sais qu'il est 100% dédié.
Et pour autant, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui incarne à lui seul l'entreprise. Voilà, il y en a des managers qui sont plus en collectif, d'autres très très solitaires. Vous le voyez comment vous ?
Il est, comme je le disais, il est consultant de formation, donc il est collaboratif. C'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il sait prendre le lead, mais il a besoin, à mes yeux, de travailler en équipe et il a besoin d'une vraie émulation. Et je pense pouvoir dire que Dylan lui offre cette possibilité.
Alors là, il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Mon vieux Steph, si tu m'écoutes, je te souhaite, au plan professionnel, parce que c'est à la base pour ça que je réponds à toutes ces questions, je te souhaite de cartonner avec Dylan. Et au plan personnel, je te souhaite, comme tu le sais, depuis toujours le meilleur. Et je suis toujours ton vieil ami, prêt à refaire avec toi le monde, comme on le fait depuis plus de 20 ans.
Voilà, un bon ami qui vous suit de près. Tiens, Dylan, ça vient d'où ce nom ?
Alors, Dylan, c'est un nom qui... Alors, il y a un clin d'œil à Bob, évidemment. c'est aussi le rapprochement de deux prénoms berbères qui sont Dila et Aylan, qui signifient la plume et le bouclier. Ça correspond assez poétiquement à ce qu'on a envie d'apporter à nos vieux, c'est-à-dire alléger les soucis financiers qui sont des préoccupations souvent assez présentes et leur permettre d'avoir ce fameux bouclier financier et d'avoir les moyens de rester chez eux.
Et ça fait allusion au troisième associé qui est d'origine berbère, si je comprends bien.
Tout à fait.
Alors, on est parti très vite sur votre statut de chef d'entreprise, bien évidemment, mais vous avez fait de très bonnes études. Racontez-nous un petit peu ce parcours. Là. Tout de suite, je veux faire du business, je sais ce que je vais faire. Comment ça s'est fait ? C'est Alors pas ça, aussi
ça
évident
plutôt,
que ça.
Ça a plutôt commencé par qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc j'ai été faire une école de commerce à Cergy, l'ESSEC, pour ne pas la nommer. Et puis ensuite, ne sachant pas forcément dans quel secteur j'avais envie de travailler, j'ai été faire du conseil en stratégie.
Ouais. Juste un petit aparté, l'ESSEC, dans les quatre fonds, les quatre majeurs, hein, c'est quand même une école qui est très tournée déjà vers les entrepreneurs. C'était quelque chose qui vous appelait, parce que vous auriez pu avoir le choix.
Moi, ce qui me plaisait, c'était qu'il y avait deux choses. Il y avait un côté international où j'ai pu partir à Singapour pendant 6 mois, un moment... qui était quand même, c'était vraiment intéressant et ça, la ville s'ouvrait. Et puis, c'est vrai que c'était l'école où il y avait le plus de stages, et ce qui permettait quand même de tremper son orteil assez tôt, pendant des périodes assez longues. Et c'est ce qui m'a plu aussi ensuite, en rentrant dans le conseil, où je me suis dit, tiens, c'est... oui, j'ai dans le coin de ma tête d'un jour monter ma propre boîte parce que finalement je pense que c'est comme ça que j'ai envie de bosser.
Et bonne hérédité. On
mais voilà. Et mais en même temps j'ai envie d'avoir les bons outils pour pas me lancer forcément trop tôt. Je me sentais pas de me lancer trop tôt. Et le conseil m'a tout de suite attiré sur le fait de se remettre dans un univers très très compétitif. Avec une bonne grosse charge de travail, des déplacements, une exposition à plein de problèmes. J'ai refait le compte en préparant cet entretien et j'ai pu voir une trentaine d'entreprises en 7 ans.
Ah oui.
Donc ça m'a permis de gagner de la hauteur de vue aussi sur les problèmes qu'on rencontrait dans les organisations
C'est bizarre quand même de donner des conseils dans des entreprises qu'on vient de découvrir, non ? Ce concept, il est quand même...
C'est paradoxal, d'autant que ceux qui écoutent et ne me voient pas ne pourront que le soupçonner, mais en fait, j'ai l'air quand même un peu plus jeune que je ne le suis. C'était pire il y a 15 ans.
Donc, les gens, ils disaient quoi ? On nous envoyait le stagiaire ?
C'est ça. Est-ce que vous avez le permis ? Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a des entreprises qui ont besoin parfois d'avoir un regard aussi extérieur. Ouais. Quand vous êtes des grosses organisations, il y a des choses qui, pour être dites et pour être entendues, passent vachement mieux quand le messager ne fait pas partie de l'entreprise.
Mm-hmm. L'État, apparemment, en a besoin aussi de ses cabinets de conseil. Hein.
Oui, c'est dans l'actualité. Hein, McKinsey, 1 milliard pour conseiller l'État. Et vu les résultats, ça pose des questions. Hein.
Oui, ça fait beaucoup d'argent. Il y avait des questions d'urgence dans les années. Bon, ceci dit, c'est vrai que ça s'est pas passé forcément de la meilleure manière. Moi, j'étais chez Corian à l'époque, et nous, on a vécu surtout la pénurie de masques qui a pas été empêchée en 2020. Et comme on avait vu l'épidémie arriver depuis l'Italie, on en avait des masques, et j'ai passé un mois à aller les distribuer aux auxiliaires de vie de petit-fils qui n'arrivaient pas à s'en fournir en pharmacie. Donc tout n'était pas parfait à ce niveau-là.
C'est bien parce qu'avec vous, on fait le tour de l'actualité de crise. On parlait de McKinsey un instant, Corian, Orpea, ils sont dans une tourmente qui n'en finit pas suite à la publication de ce livre Les Fossoyeurs. C'est vrai qu'on parlait de la capacité de pouvoir d'achat des seniors, mais il y a une faiblesse, une capacité de se faire malmener lorsqu'on est un petit peu fragilisé par son âge. C'est scandaleux quand même.
Alors j'étais chez Corian, pas chez Orpea. c'est en plus un secteur qui a plein de problèmes de financement, etc. Moi, c'était aussi quelque chose qui nous a poussé à aller développer le domicile, parce que la première volonté, en fait, c'était de suivre ce que veulent les gens. Personne va en EHPAD par choix. On y va parfois parce qu'il n'y a juste plus d'autres solutions. En revanche, la volonté des gens, c'est de rester le plus longtemps possible à domicile. Et donc, c'est pour ça qu'on avait été développer le domicile sur la France et lancer des services. Mais en lançant les services, c'est là que moi, je me suis heurté à ce mur d'accessibilité financière. On proposait des services, les gens disaient ah, c'est super, vous faites plein de choses, vous proposez d'installer la téléassistance, de m'adapter mon appartement, d'avoir du suivi médical, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et le suivi humain, ça coûte de l'argent. Hein.
Bien sûr.
Quand vous avez plus de 85 ans, c'est quasiment 1800 euros. Donc il reste plus grand chose derrière pour juste se payer la nourriture. C'est comme ça qu'on en est venu à voir que il y a ce nœud-là d'argent et que...
Et c'est vrai que Petit-Fils a l'air de très bien se développer. On en entend de plus en plus parler. Il y a un besoin d'assistance, de suivi donc chez soi. Il y a moins de risques de maltraitance.
Et de qualité. Et ça a été la grande force de Petit-Fils. Donc c'est vrai quand chez Corian, on les a rachetés, on a investi dedans. Il y avait 65 agences. Il y en a plus de 200 maintenant. C'est une très belle histoire qui est construite autour... autour d'une envie de s'occuper des personnes âgées comme on aurait voulu qu'on s'occupe de nos propres grands-parents. C'était je reprends les mots des fondateurs, Pierre Gauthier et Damien Tixier, qui travaillent toujours d'ailleurs à investir dans le secteur de la silver economy.
Avec une belle publicité aussi, elles sont marquantes. Ce qui se passe, c'est on sait aussi que les premiers, hein, malgré ces solutions, on va dire, payantes, c'est quand même les solutions gratuites, et c'est souvent la famille ou ce qu'on appelle d'une plus grande majorité les aidants. Les aidants, 11 millions de personnes en France, hein, que ce soit effectivement le parent âgé, les adultes handicapés. Donc on les oublie pas, et c'est vrai que c'est important d'y penser, c'est la première force, hein, pour l'entraide.
C'est le premier bataillon, on va dire, qui s'occupe aujourd'hui de nos aînés. Et qui contribue par son temps, par son énergie et aussi financièrement au maintien à domicile. C'est aussi avec eux qu'on travaille. Hein. Nous, euh, on, On n'a pas vocation à travailler uniquement avec les personnes âgées, mais on travaille avec tout un écosystème de partenaires.
Et justement, pour raccrocher avec l'actualité, cette actualité sur Orpea, le scandale Orpea, est-ce que vous, qui connaissez très bien le secteur, mais également de l'intérieur, ces difficultés, vous l'avez dit, notamment de financement, vous étiez surpris par l'ampleur de ce qu'on a découvert ?
Non, alors, il y a des trucs qui m'ont surpris sur Orpea en particulier. J'attends de voir la sortie enfin de la version expurgée du rapport sénatorial, parce qu'il y a des pratiques qui effectivement semblent un peu étonnantes. Après, il y a des problèmes de financement qui concernent tout le monde et qui sont dans toutes les entreprises. Et puis pareil dans le public, on parle très peu du public. La situation du public n'est pas forcément plus reluisante malheureusement.
Mmh. Et est-ce que vous trouvez ça, juste une question, est-ce que vous trouvez ça choquant que justement ces dynamiques, ces problèmes de santé, de santé publique, voire des EHPAD, etc., soient privatisés et que ce soit des sociétés cotées qui puissent s'en occuper, comme certains l'ont regretté ?
Il y a un sujet, c'est sûr. Après, la question, c'est qui a les moyens ensuite d'investir ? Parce qu'il va y avoir besoin de construire 10 000 nouvelles places tous les ans pour les 10 prochaines années. Hein. C'est le besoin de la dépendance en France. Donc, qui va avoir les moyens d'investir ? L'État est quand même légèrement endetté. Les associations, elles n'ont pas forcément les moyens. Ouais. Donc, il va rester.
D'où la solution de rester chez soi, bien évidemment, et d'aider les gens à rester chez soi.
Exactement.
Le plus longtemps possible.
Il y a un sujet qui concerne les seniors et qui touche vraiment tout le monde, c'est la retraite. On en a un petit peu parlé dans cette campagne présidentielle. Toutes les solutions ne sont pas nécessairement là. On voit que les fonds de pension ont pas mal marché dans les milieux anglo-saxons, mais en France, il n'y a pas tellement de preneurs. Vous vous dites, on a des solutions et vous lancez le plan retraite immobilier. Vous pouvez nous parler de ça ?
Oui, alors c'est exactement, c'est l'autre pendant de la plateforme d'Ilan, c'est la volonté d'avoir une proposition forte pour les épargnants, pour les gens qui veulent épargner à long terme. Tout le monde aime bien l'immobilier, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'investir pour acheter un bien locatif, etc. Mais tout le monde a envie d'avoir cette sécurité-là et aussi de l'épargne qui a du sens. Donc nous, ce qu'on propose, on est en train de finaliser l'ouverture au public de notre foncière via cette offre Primo. On propose aux gens de devenir actionnaires et d'épargner à long terme en aidant aujourd'hui la retraite des seniors pour préparer la leur demain en capitalisant sur de l'immobilier résidentiel qui a du sens.
Mais ça n'a jamais été fait, ça. C'est une première. Expliquez-nous le dispositif, si vous voulez.
C'est une première. On est les seuls à proposer comme ça une souscription directe dans cet immobilier résidentiel des seniors à partir de 1 000 euros et sans frais d'entrée, sans frais de sortie. On a beaucoup observé tout ce qui était le marché dont tout le monde est friand, hein, de SCPI ou des SCI qui sont dans des contrats d'assurance vie. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de plus simple, plus direct et engageant également les investisseurs dans la durée, puisque la spécificité de notre modèle, et on est les seuls à le faire, c'est qu'on fait voter tous nos actionnaires sur les projets d'acquisition. Mmh. Donc vous avez un vote électronique, tout se fait électroniquement parce qu'on est en 2022, donc on souscrit électroniquement directement, on fait son virement sans avoir de papier à remplir, et ensuite on accède au vote et on vote au fil de l'eau à tous les projets, ce qui est sympa parce que vous avez l'impression finalement à chaque fois de réaliser une transaction vous-même, mais vous bénéficiez de la mutualisation du risque.
Les fonds, ils sont bloqués
Non. Non. Les fonds ne sont pas bloqués.
Et donc, vous n'avez pas voulu vous introduire en bourse. C'est une manière de dire, j'ai un partenariat plus étroit avec des actionnaires qui vont être au courant de nos investissements, de nos choix, qui vont y participer.
Exactement, avec une transparence, une parfaite transparence, puisqu'ils sont impliqués et qui voient tout le portefeuille de biens qui peuvent se prononcer si vous avez quelque chose contre, j'en sais rien, Tourcoing ou Dieppe, vous pourrez nous l'expliquer directement, et donc on a cette relation directe avec les investisseurs.
C'est quoi le calendrier? Vous nous dites ça dans la deuxième partie, si vous voulez bien, puisque je redonne la parole au maître des horloges, c'est Fabrice Coustet.
8h31 sur Radio Imo, on va faire une deuxième pause musicale avec un petit peu de Bob Dylan, ça tombe bien. Alors c'est éponyme, mais c'est pas tout à fait la même signification, vous nous avez dit. On écoute un peu de country.
And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
On vient d'écouter All the Times Are Changing de Bob Dylan, le choix de notre invité Stéphane Revaux. Bob Dylan, là aussi, un maître pour vous?
Un grand maître qui a su faire de la folk et rendre hommage au blues, et puis avec des chansons comme ça qui sont porteuses de sens sur les temps qui changent.
Alors, vous disiez il y a un instant que tout le monde peut prendre des actions chez nous, puis ils vont voter électroniquement. Puis juste avant, on parlait des seniors. C'est vrai ou non que les seniors, il y a une certaine fracture numérique qui n'aurait pas adopté ces outils numériques, email, télémédecine, etc.
Alors nous, ce qu'on observe, c'est que c'est de moins en moins vrai. c'était déjà pas vrai il y a quelques années, et le Covid a vachement accéléré les choses. Nous on a des contacts, on a des gens qui nous contactent sur notre site tous les jours, et c'est pas que les enfants des personnes âgées, hein, c'est les personnes âgées directement, parce qu'elles prennent en main leur recherche, leur renseignement, et ensuite ils nous appellent, ils nous contactent par email, ils sont tout à fait connectés, les seniors. Aujourd'hui.
Alors, vous parlez de votre société, vous n'êtes pas tout seul, il y a des associés. Par exemple, Yazid Askas, qu'est-ce qu'il apporte? Lui aussi, je crois qu'il a un profil un petit peu atypique.
Alors, Yazid, c'est un serial entrepreneur. il a passé près de 15 ans dans la Silicon Valley. Il a monté plein de différentes entreprises. Et il nous apporte toute cette expérience-là. Effectivement, autour de l'entrepreneuriat, et puis autour de aussi toute cette expérience sur l'equity release, donc tout ce marché qu'on appelle, alors le mot en français pas beau, de liquéfaction de l'immobilier, mais toute cette expérience là sur un marché français qui est beaucoup moins développé. Donc c'est un super rapport.
Et donc voilà, entre les associés, on sent qu'il y a une bonne entente, hein, c'est encore très, très jeune tout ça, on sent de l'amitié. Et bien on a parlé à l'un de vos associés, enfin directeur général, je crois, Fabrice, ouais. Que vous allez nous l'introduire. Encore quelqu'un de l'équipe de Dylan.
Notaire chez l'expert notaire, non, c'est pas ça, je l'ai pas.
Aurélien Simon, en fait, je crois que là aussi vous connaissez de longue date. Je vous propose de l'écouter. Aurélien Simon, bonjour, vous êtes le directeur général de Dylan. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec Stéphane Revault ?
Eh bien, Stéphane, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis 2008. On a commencé à travailler ensemble, on s'est croisés sur de nombreux projets. Et ensuite, plus récemment, eh bien, on a décidé de travailler ensemble en tant que cofondateur d'une entreprise. Parce que Stéphane, c'est quelqu'un qui est très complémentaire de moi-même. On a des qualités bien dissociées les uns de chacun de l'autre. Alors Stéphane, il va être beaucoup plus ouvert sur le monde. C'est quelqu'un qui est dans les sujets de développement commercial, de marketing, de communication. Moi, je vais être plutôt sur des sujets analytiques, de business. Et on se complète extrêmement bien. Donc c'est ça qui fait que travailler ensemble, eh ben, je pense que c'est quelque chose qui marche très bien. Après, au quotidien, travailler avec Stéphane, c'est toujours un plaisir. C'est quelqu'un qui est bourré d'enthousiasme, de dynamisme. Et donc, on passe des journées de travail vraiment sympathiques à ses côtés.
Et effectivement, pour embarquer aussi bien les salariés que les partenaires, c'est cet esprit dynamique, d'après vous, qui lui permet d'entraîner tout le monde derrière lui ?
Oui, c'est certain. Stéphane, on a envie de l'écouter, on a envie de le suivre, on a envie de croire ce sur quoi il travaille, parce que c'est quelqu'un qui est profondément passionné par ce qu'il fait, convaincu du sujet sur lequel il travaille actuellement, le financement des seniors. Et donc, il sait embarquer les foules derrière lui, que ce soit des partenaires investisseurs, que ce soit des clients ou bien des partenaires commerciaux. Il a cette capacité à embarquer tout le monde. Et puis, pour les équipes avec lesquelles il travaille, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. C'est un manager qui est à l'écoute, qui sait prendre en considération les besoins et les préoccupations de chacun. Et de ce point de vue-là, avec ses collaborateurs aussi, il a cette capacité à les fédérer, à les emmener vers le même projet.
C'est amusant le contraste, parce que avant le domaine des seniors, on parlait de viager, il y avait quelque chose d'un petit peu macabre, hein, c'était moche. Et puis quand on vous écoute, on dirait une bande de copains, on parle des startups, et puis vous souriez depuis ce matin, vous apportez un souffle là, dans ce domaine.
C'est la volonté qu'on a, effectivement. Le viager, ça a cette image poussiéreuse, ça apporte des solutions, mais ça reste très confidentiel, hein, c'est 5000 transacts par an. Donc clairement, ça répond pas aux problèmes de tout le monde. Comme je vous le disais, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir un regard négatif sur le grand âge et se rendre compte que c'est surtout plein de gens qui ont plein de projets positifs. On n'est pas dans un espèce de pari macabre. On est là pour aider les gens à rester bien chez eux et à mener à bien des projets. Donc c'est quelque chose de super positif qui nous porte tous les jours.
Il y a des pays qui font ça mieux que nous, parce que c'est vrai, comme des sujets, la mort, la vieillesse, on a du mal à en parler, moi j'ai l'impression, en France. Et il y a d'autres pays où on nous dit on vit avec les grands-parents, je sais pas où d'ailleurs, mais...
Moi, j'observe plutôt le paysage européen et les pays anglo-saxons. On passe tabou par rapport aux finances, par rapport au fait d'aller utiliser son immobilier. Je pense qu'on y parle de l'argent aussi de manière un peu plus décomplexée que en France. En Allemagne aussi, ça progresse beaucoup. Il y a aussi une relation et puis une volonté d'indépendance aussi des personnes âgées. Au-delà de la préoccupation de « je veux pas être un poids pour mes enfants », il y a aussi enfin, j'ai le droit de vivre. C'est la génération qui arrive, c'est la génération baby-boom. Hein. C'est des hédonistes. Ils ont envie de vivre. Ils ont envie de bien vivre. Ils n'ont pas envie de souffrir pendant leur retraite. Donc derrière, nous, on est là pour les aider à faire ça.
Moi, je reviens aux prémices. On était parti tout de suite. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Vous étiez là, j'imagine, bon élève à l'école, avant de dire tiens, je vais être patron, je vais faire une école de commerce. Il y a quelqu'un qui vous a soufflé ça. Je ne sais pas si d'ailleurs vous nous parlez de vos parents, si eux aussi ils avaient le virus de l'entreprise.
Oui, oui, mes parents, ils ont un temps lancé une boutique de vêtements dans le 13e, parce que ma mère avait commencé à travailler dans la mode. Ils m'ont appris que on pouvait aussi avoir des carrières non linéaires, que c'était pas que 30 ans dans une entreprise et puis s'en va. Par exemple, ma mère, elle a commencé dans la mode, ensuite elle est devenue professeure d'anglais par la suite. L'envie de suivre ses envies et puis les opportunités au moment où ça arrive, c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai découvert justement l'univers des vieux en passant chez Corian. J'en avais un peu assez de faire des slides PowerPoint, j'avais envie de faire aussi de rentrer dans la vraie vie et d'aller mettre un peu mes bras pour délivrer dans la vraie vie ce que j'avais vachement bien dessiné sur un PowerPoint.
Donc consultant Corian pendant 7 ans. Et ensuite vous lancez. À quel moment il y a ce déclic où vous dites bon, là c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai vu pas mal de choses et le démon de l'entrepreneuriat
J'avais commencé par essayer de faire de l'intrapreneuriat chez Corian. Ouais. Et faire de l'intrapreneuriat, c'est super dur.
On explique juste pour les auditeurs.
Pour les auditeurs, l'intrapreneuriat, c'est lancer sa start-up, mais à l'intérieur d'une grosse boîte. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que vous partez avec pas mal de boulets au pied. Le job d'une grosse boîte, c'est avant tout de faire tourner la grosse boîte. Donc quand vous êtes un peu électron libre, c'est pas facile. Ça m'a donné le virus. De créer encore plus. Et puis, je réfléchissais à ces problématiques de financement quand on s'est rencontré avec mon associé Yazid. Et assez rapidement, je me suis dit, non, mais en fait, c'est une problématique. Mmh. Il faut s'y lancer à 100%. Et il faut le faire. Ça pourra pas se faire dans un grand groupe qui est un opérateur. Ça doit se faire de manière très, très différente. Pour que ça marche.
Et je me demandais si vous étiez un très très grand bosseur. Quand on est patron, je crois qu'il n'y a plus la question. Mais quand on vous écoute, on sent un bon vivant. Quand on vous écoute, quand on écoute les gens qui vous connaissent bien, donc vous étiez en première terminale, ça va, j'y arrive bien. Il y a quelqu'un qui vous a donné envie, tiens, tu vas. Parce que quand même, pour rentrer à l'ESSEC, il faut être quand même très très bon en maths. Hein.
Ouais. Moi, j'ai eu le directeur de ma prépa à l'époque. Moi, j'étais pas bon en maths. M'a mis des coups de pied aux fesses jusqu'à ce que je devienne bon. et c'est grâce à lui.
On peut devenir bon en maths, alors même si c'est pas une fatalité, quoi.
Ça demande juste plus de boulot qu'à d'autres personnes.
Donc c'est encore une fois les aînés, là, vous qui regardez vers les seniors, qui vous ont aiguillé un petit peu.
Oui, moi je pense pas que le pinacle de la vie de quelqu'un, c'est son adolescence et que ensuite tout descend. Je pense qu'au contraire, c'est toujours nos aînés qui nous apportent de l'expérience, de la sagesse et de la perspective.
Et alors, ce potentiel, vous allez le développer. On parle d'une société qui se développe au niveau territorial national, vous avez divisé ensuite à l'international.
Oui, aujourd'hui on commence en France. On a commencé depuis l'année dernière, d'abord dans le bassin parisien et puis dans le Grand Ouest. Donc Loire-Atlantique et Vendée, et on a la volonté de servir la totalité du territoire français. Focaliser en premier sur les grandes villes et villes moyennes et la périphérie immédiate, mais à terme avoir une proposition sur tout le territoire avant de s'engager aussi au niveau européen, parce que la problématique qu'on adresse, elle est vraie finalement partout.
C'est pas trop réglementé, surtout après des études qui montrent qu'il y avait des déviants, des dysfonctionnements. Vous craignez pas d'aller sur un terrain où l'acteur libéral que vous êtes va être un petit peu contraint ?
Non, je pense qu'on a vocation à être surveillé comme n'importe quelle personne qui s'adresse à un public réputé fragile. Et c'est tout à fait normal et c'est très bien. Mais ensuite la réglementation est celle du secteur de l'immobilier, donc c'est aussi quelque chose qu'on navigue assez simplement. Oui.
Vous dites, voilà, senior, la plupart des gens ont envie de rester chez eux. On s'est rendu compte avec le télétravail que déjà jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont envie de rester chez eux. Ça amène pas des diversifications possibles.
Nous, notre vocation, c'est vraiment d'adresser les seniors. Aujourd'hui, on se focalise plutôt sur les gens de 75 ans et plus. Rien ne nous interdira à l'avenir de s'adresser peut-être aux seniors actifs, aux personnes de 55 ans et plus. Auparavant, je pense que les gens sont dans des dynamiques un peu différentes de problématiques de primo-accession ou d'achat de la deuxième résidence principale, qui est moins notre sujet.
En tout cas, je reviens sur cette première, hein, le crowdfunding, je le dis pas très bien, immobilier, ça fait son essor, ça continue de se développer, mais vous, c'est une première, vous dites, l'offre qu'on fait, ça existait pour les éoliennes, mais dans l'immobilier, ça n'existait pas.
Exactement, en fait, le principe du crowdfunding, c'est que vous mettez un petit ticket dans un bien. Donc vous achetez une partie d'un bien, un bureau, un coworking, etc., ou un co-living. Nous, on pense que le vrai sujet pour de l'épargne de long terme, c'est de mutualiser tous les risques. Et donc, vous êtes beaucoup mieux protégé quand vous avez investi chez Dylan dans Primo et que finalement en portefeuille, il y a 200 biens qui sont répartis sur toute la France avec des personnes de tous les âges, avec zéro risque locatif, puisque nous, par essence, la personne âgée, elle est chez elle et on veut qu'elle y reste. Donc on porte pas de risque de taux d'occupation. Et on permet de réduire ces risques-là. Et on pense que c'est la meilleure manière de faire.
Donc les gens qui sont intéressés, ils se tournent pas vers leur banque, ils surveillent sur votre site internet ce qui se passe.
Ils peuvent s'inscrire dès maintenant sur notre liste d'attente et ils seront notifiés dès l'ouverture de la plateforme et ils pourront souscrire en ligne à partir de 1 000 euros directement et réaliser le virement pareil en dématérialisé.
Ça peut vous intéresser, Fabrice ? Vous êtes toujours à l'affût des belles opportunités.
J'ai mon chéquier qui est prêt. Non, mais je trouve ça intéressant. Et puis au-delà, effectivement, c'est de ces investissements, de cette diversification, ce qui est intéressant. On est sur des actifs quand même tangibles. On n'est pas sur des choses très, très volatiles comparé à la bourse, par exemple. Il y a aussi le financement propre de votre start-up qui est intéressant. Là, c'est très original. Expliquez-nous.
Nous aujourd'hui on est autofinancé. On a cette volonté effectivement de marcher sur le grand public. Mm-hmm. On discute évidemment en parallèle avec des investisseurs institutionnels et les investisseurs institutionnels se mettent également à nos côtés. Puisque c'est un sujet aussi pour eux, d'une part de pouvoir s'occuper de leurs clients, leurs propres clients seniors, et d'autre part de pouvoir aussi investir à très long terme. Sur un immobilier qui est plus stable que l'immobilier de bureau et qui est porteur de finalement plus de sécurité pour eux.
Et j'imagine qu'en sortant d'une grande école de commerce, tous les secteurs vous étaient ouverts. Vous faites partie de ces jeunes qui ont dit « moi, je veux contribuer à quelque chose qui est utile dans la société », c'est ça ?
Oui, moi j'ai besoin de sens. Je me voyais pas. Chacun ses choix. Hein. Moi je me voyais pas devant un terminal Bloomberg à acheter et vendre des actions tout.
Alors j'ai travaillé chez Bloomberg. Attention, hein, il y a quand même beaucoup.
C'est une très très belle boîte.
Très belle masse d'informations.
Très très belle boîte. mais j'avais besoin de quelque chose qui ait un sens concret et où je vois mon utilité au jour le jour en rencontrant les gens, en étant dans l'humain et la relation à l'autre. C'était super important pour moi.
Alors, est-ce qu'il nous reste un petit témoignage ? Parce que des partenaires dans votre écosystème, il y en a plein. Et je crois que vous avez maille à partir avec les notaires également. C'est maître Dominique Devrien avec qui vous travaillez. On va l'écouter, on va voir ce qu'il nous dit sur vous. Dominique Devrien, bonjour. Vous êtes notaire associé chez l'Exfer Notaire et vous avez eu à partir avec Stéphane Revaux. Comment il vous a paru, ce président de Dylan ?
Alors, écoutez, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a peu de temps par l'intermédiaire d'un de mes clients avec lequel il s'est associé pour constituer cette société Dylan. Il m'apparaît comme un entrepreneur assez audacieux et qui a parfaitement compris un peu l'air du temps et notamment les préoccupations des seniors qui aujourd'hui sont propriétaires d'un patrimoine immobilier parfois important et qui n'ont peu de ressources parce que des retraites petites, des charges élevée et qui leur permet ainsi de pouvoir se déposséder de ce bien immobilier tout en restant chez eux. En toute sérénité, en toute tranquillité, dans la mesure où, contrairement à une vente immobilière où ils sont obligés de déménager, de trouver quelque chose, ils restent chez eux. Ils ont un patrimoine qui est transformé pour partie on monétise en fait son patrimoine immobilier et ça leur permet de se soulager, notamment dans le paiement des charges et de la vie de tous les jours.
C'est vrai, c'est rare des jeunes qui se préoccupent du sort des seniors. Et puis, on voit des start-up qui arrivent dans l'immobilier. Vous, notaire, vous avez à voir avec énormément de types de transactions. C'est intéressant de voir que ce souffle des start-up, de l'innovation, il n'a pas échappé au domaine de l'immobilier, apparemment.
Non, tout à fait. Et effectivement, il a le nez fin parce que il a vraiment compris un petit peu quelles étaient les préoccupations de cette clientèle senior qui augmente. Hein, et on sait que dans la courbe des âges, on sera de plus en plus vieux et que les personnes veulent rester chez elles. Et il a innové notamment en mettant en place des systèmes comme ce qu'il appelle le Reverso Flex, hein, qui sont des modes d'acquisition en indivision, hein, ce qui permet de vendre une partie de son bien tout en restant chez soi, donc et en versant une indemnité d'occupation pour le solde. Et donc tout ça, c'est assez nouveau. Ça s'inspire un petit peu du droit allemand, de ce qui se passe en Allemagne notamment. Et je pense que c'est des jeunes entrepreneurs comme lui qui permettent de pouvoir, avec toute la matière juridique qui existe aujourd'hui, de pouvoir trouver des solutions qui s'adapte bien aux préoccupations de ce type de clientèle.
Alors, si des notaires sont déjà convaincus, Stéphane Renvaux, bravo.
C'est des partenaires super importants, puisque c'est eux qui s'assurent de la sécurisation. C'est important de sécuriser les relations avec les personnes âgées. Donc, c'est des vrais partenaires pour nous. C'est souvent le meilleur conseil de famille concernant le patrimoine.
Le droit allemand est plus protecteur. Parce que moi, je ne connaissais pas cet aspect-là.
Non, mais c'est le droit allemand sur les acquisitions en indivision est plus développé. Le business est plus développé en Allemagne. En France, on est vraiment les premiers à s'installer.
Alors, j'ai bien retenu que votre ami tout à l'heure disait que vous êtes très ouvert sur l'économie, la politique, vous adorez refaire le monde. On est quand même dans une période sensible pour la France, quelques jours de l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûre que le thème du vieillissement de la population, du bien-être des seniors, ait eu une grande place dans cette campagne ou dans ce que disent les candidats. Qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Oui, mais je pense qu'au-delà de certains candidats qui ont poussé sur le thème des droits de succession, parce que pour parler à un électorat senior, il y a peu de choses, il y a eu peu de vues globales et peu de perspectives. Ça a été un peu la grande absente. Alors en plus, la guerre en Ukraine a tout balayé et tout le monde s'est mis à parler de défense alors que personne n'en parlait. Mais ça a un peu effacé ces sujets-là qui pourtant sont brûlants d'actualité.
Et même indépendamment du business comme citoyen, et on ne fait pas de politique, hein, mais ça vous intéresse cette campagne, les sujets, comment ça se passe en tant que citoyen?
J'adore suivre la politique en tant que citoyen. Non, cette campagne, elle a été assez inexistante, malheureusement.
La faute à quoi?
La faute à probablement une actualité et puis beaucoup de combattants, des peu qui ressortent.
Effectivement, le suspense va bientôt s'arrêter, en tout cas. Et comment vous êtes accueilli? Parce que vous avez cité des grandes maisons. Il y a des acteurs dans la silver economy qui font leur chemin. Mais quand on est un nouveau venu, il y a quelques embûches parfois. C'est vrai, vous avez des petites anecdotes à nous raconter?
Oui, je pense que le premier point, c'est que effectivement on est nouveau venu et la première chose qu'on nous dit, c'est mais finalement vous faites du viager. Donc non, on va bien au-delà. Nous, notre sujet, c'est vraiment de financer les personnes âgées. Après, on n'est pas très nombreux à s'attaquer à ces problématiques-là et à être dans l'immobilier des seniors. Il y a quelques gros acteurs, effectivement, qui sont concentrés souvent sur des biens de luxe. Nous, on est concentrés sur monsieur et madame tout le monde. Hein, voilà. Une de mes clientes, c'est une dame de 96 ans, qui est en pleine forme, d'ailleurs. On la salue, Chantal. J'en ai une autre, elle vit dans un T4. Une autre, elle vit dans un 3 pièces à Nogent-sur-Marne.
Finalement, c'est les Françaises et les
Français. C'est Français et Français à côté de chez vous.
Vous nous avez dit en tout cas que vous êtes épicurien, en tout cas que vous aimez la bonne chère. Qu'est-ce que ça va être le plat d'hiver du week-end du coup?
Le plat du week-end, ça va être probablement du Sri Lankais, un petit biryani de poulet, et suivi avec un peu de mexicain. J'aime bien manger mexicain.
C'est pas mal.
Vous faites la fête. Voilà, qu'est-ce que vous faites avec vos amis, vos proches? Vous faites pas que travailler quand même, rassurez-nous.
Non. Déjà, je cuisine beaucoup, et on aime bien recevoir à la maison pour se faire des bons dîners entre amis. Et avec de la bonne chère. Donc travailler beaucoup n'empêche pas de très bien vivre aussi.
On n'a pas parlé tellement de sport, on a parlé musique, art, nous on aime bien découvrir les personnalités. Le sport, ça fait partie des facettes de votre personnalité?
Oui, mais j'essaye de faire du sport tous les jours de la semaine. Généralement, je cours ou je fais du vélo avant d'aller travailler pour avoir l'esprit clair et arriver...
Ce matin quand même.
Arriver au boulot. Non, j'avoue, ce matin sous la neige, mais j'irai après, là. J'irai courir un petit peu après, quand même faire une petite demi-heure, juste pour avoir le bon niveau d'énergie ensuite pendant la journée.
Pour avoir le bon mojo. Je dis ça parce que vous avez un petit côté Austin Powers, je sais pas si on vous l'a dit, ça doit être les lunettes, la coupe de cheveux, mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Stéphane Drevaux, de découvrir Dylan, votre start-up, membre de la PropTech, qui continue son ascension et qui a une véritable utilité presque sociale.
Et nous, on donne beaucoup d'informations, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est quel est votre âge, Stéphane Drevaux?
J'ai 38 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
C'est ce qui me semblait. Bon anniversaire, Stéphane.
Merci, joyeux anniversaire, vous ne les faites pas. Bon, on se quitte avec The Weeknd, ça tombe bien, I Feel It Coming, un titre aussi un peu plus pop, moins rock, mais très sympa aussi.
Merci à vous.
Très bonne journée à tous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Mac de Limo. On remercie Jason Pignero à la technique, excellente journée. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. You are not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.